Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur Calibre. Oui, on est le 23 septembre. C'est la deuxième émission de la saison 2 de Calibre. Bon, on va pas vous les énumérer à chaque fois, mais bon, en fait, c'est la deuxième et c'est à peu près la même équipe, mais pas tout à fait. Ce soir, au micro, il y a Lunar et Mélanie. Et à la technique, il y a Noémie et Maud. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille ce soir pour cette émission, pour parler de plein de choses. Vous pouvez nous appeler pour discuter de corps, d'amour, de sexualité, tout ça quoi.
Et donc le petit numéro, c'est le 04 76 09 09 09. Et donc, il y aura Maud hein, pour répondre au téléphone. Et alors voilà, on va le redire. Hein, il n'y a qu'une seule ligne. Alors si jamais quand vous appelez, c'est occupé, ben c'est qu'il y a une personne qui aura déjà appelé. Et donc il faudra rappeler après. Voilà, tout simplement.
Bon, peut-être on peut rappeler quand même pourquoi on fait cette émission. Et alors on l'a fait pour vous, ça c'est sûr. Et en fait, on l'a fait parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour discuter de sexualité, de corps et d'amour, tout ça dans nos vies. Et que du coup, on se disait que ça pouvait être chouette d'avoir ce moment-là dans la semaine où on pourrait ensemble discuter, réfléchir à ces questions-là.
Ou en tout cas pas tant d'espace où il y a un peu nous ce qui nous plaît, en tout cas un espace où il n'y a pas de tabou, on peut poser toutes les questions qu'on veut, même si elles paraissent idiotes, ou de parler de pratiques qui sont pas courantes ou habituelles ou dans la norme, et que en tout cas on n'a pas envie qu'il y ait de nous, on va pas poser des jugements sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, plutôt qu'on ce qu'on a envie, c'est à un moment donné de questionner des fois des choses, de ce qui existe et de dans toute la variété de ce qu'on peut imaginer comme forme de relation, comme pratique, dans qu'est-ce qu'on fait avec son corps dans sa vie et tout ça.
On peut rappeler aussi qu'on n'est pas des experts, ni des expertes. On est là avec notre vécu et puis des fois le temps qu'on passe quand même à potasser certains sujets, mais pour autant on n'a pas de formation sur ces sujets-là. Et du coup, nous notre objectif c'est plutôt d'essayer de construire ensemble des solutions à des problèmes que vous auriez ou voilà. Du coup,
Et puis voilà, la joyeuse équipe de Calibre, hein, c'est une équipe de bénévoles. On est sur une radio associative qui est Radio Kaléidoscope, qui nous ouvre ses studios et ses ondes et ses micros, voilà.
Et alors si vous n'osez pas nous appeler, si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez nous écrire un mail à calibre@poivron.org. Donc Calibre, ça s'écrit CAS-libre au pluriel @poivron.org.
Et puis voilà, alors il y a pas très loin hein, le site internet de l'émission où vous pouvez écouter les enregistrements de toutes les émissions qui ont eu lieu. On doit être à 32, alors voilà, ça fait 32 heures d'écoute. Si vous voulez vous faire un marathon Calibre, c'est possible.
Mais vous pouvez aussi nous écouter en direct, ça nous fait plaisir. On se sent un peu moins seul sur cette sur cette onde.
Et puis voilà. Je ne sais que
on pourrait commencer par s'écouter une petite chanson pour vous laisser le temps de nous appeler hein, au 04 76 09 09 09. Donc la première chanson qu'on va écouter, c'est de Coco Rosie, qu'on aime bien parce qu'on la passe souvent. Et c'est Raphaël. Elle va arriver. Hein.
Et la voici.
Splintered at its core. Thought I could do it, love, milk and fire. I know.
c'était Coco Rosie et la douceur de ces quelques notes pour nous accompagner dans la douceur de cet automne qui est maintenant là.
Et vous êtes toujours sur Calibre. Et là, on va. Bah, la semaine dernière, déjà, on avait commencé à discuter de plusieurs questions que nous avait adressées une auditrice par mail. Et ben, on va continuer puisque ce mail était plein de questions, plein d'informations, plein d'avis, plein de tout ça. Et là, la partie de ce mail, ça concerne la circoncision. Donc voilà, on va pas vous le lire en entier parce que. C'est assez long et du coup on a plutôt envie de s'arrêter sur quelques points et puis de parler ensemble de la circoncision et j'en profite pour vous dire que si vous êtes circoncis vous pouvez nous appeler pour témoigner de qu'est-ce que vous pensez de ça, de comment vous avez vécu votre circoncision, à quel âge vous l'avez pratiquée, est-ce que c'était avec ou sans votre consentement, enfin tout ça quoi. Donc je rappelle le numéro de téléphone au cas où, 04 76 09 09 09.
Et donc cette auditrice qui nous a écrit, elle cherche donc, elle aussi, hein, mais autant que nous, ça nous intéresse des témoignages... d'hommes circoncis, et en tout cas, son avis à elle, c'est qu'elle dit, alors je vais la lire, « Je trouve que la circoncision est une mutilation sexuelle qu'on pratique sur les enfants sans leur demander leur avis, est-ce que c'est de la merde ? Je pense que plus c'est pratiqué jeune, et plus c'est traumatisant. » Alors...
Voilà, bah déjà on peut peut-être commencer par rappeler c'est quoi la circoncision. Un petit cours d'anatomie génitale, masculine génitale, enfin bref, oui. Bref, comment c'est fait un zizi de garçon, quoi. Alors, t'arriverais à expliquer, Lunard, ce que c'est
Alors, la radio, c'est compliqué la radio, il n'y a pas d'image, mais comment dire, donc la bite, vous voyez, donc c'est un truc qui est un peu...
Forme de bite, quoi.
Un tube, quoi. Enfin, un truc cylindrique rond, et donc il y a de la peau autour des. Quoi, comment ça s'appelle? Des corps caverneux, des machins qui gonflent, quoi. Et en tout cas, cette peau-là qui recouvre le bout de la bite qu'on appelle aussi le gland, ce bout de peau, ça s'appelle le prépuce. Et la circoncision, et donc c'est un bout de peau qui peut bouger, et qui recouvre plus ou moins, enfin qui ah ouais, quand la bite est au repos quoi. Alors c'était quoi le nouveau mot de vocabulaire ?
En faisant des recherches, j'ai trouvé un super nouveau mot de vocabulaire. En écoutant Calibre, on peut aussi apprendre des nouveaux mots de la langue française, à savoir. Attends, faut que je me souvienne. Flaccide. Donc flaccide, c'est le contraire de en érection, mais on peut aussi l'utiliser quand quelqu'un est avachi sur son canapé. Ouh, tu m'as l'air bien flaccide aujourd'hui. Donc voilà, c'est avec deux C pour pouvoir l'écrire aussi dans vos lettres.
Le poser au Scrabble, quoi.
Ou le poser au Scrabble. Voilà, vous connaissez un nouveau mot.
Bon, en tout cas, donc quand le pénis est flaccide, le prépuce recouvre l'intégralité du gland. Et quand la bite est en érection, et ben le prépuce souvent il est décaloté, on dit, c'est-à-dire qu'il recouvre moins en tout cas le gland quoi. Et la circoncision, et ben c'est justement d'enlever le morceau de peau du prépuce qui recouvre le gland d'habitude.
Et du coup, même au repos, même une bite flaccide, j'y arrive pas, le gland n'est pas recouvert. Voilà. Donc cette pratique-là, elle existe depuis hyper longtemps, apparemment depuis l'Antiquité. Je sais pas trop ce que, ça fait longtemps, quoi. Je pense que ça a été pratiqué plus souvent à certaines époques que d'autres, mais voilà. Et apparemment, aujourd'hui, ça concerne, selon une estimation de l'OMS, donc de l'Organisation Mondiale de la Santé, ça concerne 30% des hommes. Soit 665 millions d'hommes, mais voilà. Donc, cette circoncision, elle est pratiquée pour différentes raisons. En tout cas, elles sont pour. C'est pas forcément des bonnes raisons. Enfin, bref. La circoncision, c'est pratiqué souvent pour des motifs culturels ou religieux, mais ça peut l'être aussi pour des raisons médicales. Donc, c'est alors une raison médicale pour laquelle peut être pratiquée la circoncision, c'est comme par exemple le prépuce, donc ce petit bout de peau qu'on enlève, en fait, il reste bloqué derrière le gland. En fait, il n'arrive pas à recouvrir le gland parce qu'en fait, c'est un bout de peau qui est en forme de tube et il est trop étroit et du coup, on peut l'enlever pour éviter ce genre de désagrément, quoi. Mais à savoir que c'est pas, même quand on a ce type de problème, c'est pas pour autant que on est obligé de faire cette opération. Il existe aussi des alternatives d'étirement de la peau pour faire en sorte que ce prépuce il soit plus large.
Tout un tas de trucs de chirurgie. Enfin, c'est une des pratiques chirurgicales dans ce cas de... Dans qui peuvent motiver, oui, enfin bref. Face à ce problème, il y a plusieurs pratiques chirurgicales, la circoncision, ça peut en être une, mais il y en a d'autres, c'est ça.
Voilà, donc, exactement. Et sachant que ça peut être aussi pour des raisons, enfin, une autre raison invoquée, c'est l'hygiène. Moi, je sais pas ce que je pense de ça, en fait. L'auditrice, elle nous en parle. Peut-être tu peux à ce moment-là lire ce passage.
Alors, en ce qui concerne le soi-disant confort de propreté attribué à la circoncision, entre parenthèses, qui s'est fait beaucoup aussi aux USA, pendant longtemps par idéologie puritaine, je pense. C'est tout faux, j'en suis certaine.
Voilà. Je sais pas exactement si. Enfin, je pense que si tu te laves bien tous les jours, il n'y a pas de raison d'être circoncis. Ça t'apporte pas plus d'hygiène que ça. Mais en tout cas, effectivement, aux États-Unis, la plus grande raison pour laquelle les gens se font circoncire, et c'est assez fréquent aux États-Unis, c'est l'hygiène. Voilà. Bon.
Mais alors, elle dit aussi, voilà, et en tout cas que l'auditrice, elle dit, pour moi, dire qu'il faut l'enlever parce que c'est plus propre, c'est vraiment entretenir l'image du sexe masculin comme mauvais, sale, pas convenable. Ouais, et bon, on peut, disons, c'est un truc un peu général, en fait, quelque part, que de considérer les sexes comme sales, que ce soit des pénis ou des vagins, ou des vulves. Enfin, il y a, à plusieurs moments dans l'histoire, il y a eu, des cultures pour porter un peu ce discours-là, quoi.
Et en tout cas, moi, je voulais peut-être revenir sur ce qu'elle disait sur la question de l'âge, où elle disait que plus... C'est quoi qu'elle disait exactement ? Je me souviens plus.
Je pense que plus c'est pratiqué jeune et plus c'est traumatisant.
Voilà. Alors moi, ça, je suis pas sûre d'être d'accord. Je pense que ça peut être... Enfin, la circoncision peut être traumatisante comme elle peut ne pas l'être. Peut-être on en reparlera un petit peu après. Mais sur la question de l'âge, il y a un article de Martin Winkler, vous savez, on en parle souvent de Martin Winkler, c'est celui qui a beaucoup bossé, c'est un gynécologue qui a beaucoup bossé sur la question de la contraception. Et là, en 2005, il me semble, il a écrit un article sur la circoncision, dont on vous donnera la référence. Et il questionne un peu ce truc de l'âge, et je vais vous lire un petit extrait qui, je trouve, résume bien le fait que, en fait, au-delà de l'âge, c'est surtout... subjectif, en fait, comme expérience. Donc voilà, j'y vais.
Allez.
Un athée circoncis à l'âge de 8 ans par sa famille juive peut très bien considérer cette circoncision, sans souvenir douloureux, comme une mutilation symbolique parce qu'imposée, tandis qu'un jeune Sénégalais circoncis à l'âge de 13 ans au cours d'un rituel tribal peut garder de son rite de passage un souvenir de fierté et d'appartenance, même s'il a été douloureux.
Bah oui, c'est pour ça que des témoignages, ça serait chouette. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça dépend vraiment du vécu de chacun et de comment c'est perçu, comment ça s'inscrit dans une histoire.
En tout cas, ce qui est vrai, c'est que moi, je trouve que la question de l'âge, ça pose quand même la question du consentement. Parce que, effectivement, sur des nourrissons ou même sur des enfants de 10, 12 ans, pratiquer la circoncision, c'est le faire un petit peu sans leur consentement, même si à 10, 12 ans, on a plus le droit à la parole qu'à 2 mois, 8 jours. Et c'est vrai que ça, je pense que, pour moi, quelles que soient les raisons pour lesquelles on se fait circoncire, si c'est sans son propre consentement, ça peut être problématique, en fait. C'est là d'où peuvent venir des traumatismes. Je pense que si Lunard décidait demain, parce que je crois qu'il n'est pas circoncis, je ne suis pas sûre, décidait demain, pour des raisons d'hygiène, selon lui, de se faire circoncire, ben moi je pense que ça serait très bien. Après, pratiquer la circoncision de façon systématique chez des bébés parce qu'on pense que c'est hygiénique, ben moi je trouve que là ça craint un peu, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Lunard.
Bah, en tout cas, c'est sûr que ça pose question. Comme alors après, dans cet article de Vinclair, puis aussi c'est une citation qui est trouvée qu'on a trouvée sur Wikipédia en cherchant. Et bon, en tout cas, moi, bon, a priori, c'est vraiment pas prévu que j'aille me faire circoncire. Je vois pas trop. Enfin, bon, ça me fait pas du tout envie, quoi. Mais
avant que tu lis cet extrait, je voulais rappeler aussi que en fait, la circoncision au 19e siècle, comme l'excision, on en parlera un peu tout à l'heure, c'était pratiqué en Europe occidentale, parce qu'on a un peu l'habitude de dire que c'est en Afrique que ça se pratique, machin, là-bas, loin, tout ça. Et c'était très pratiqué en Europe, et pour réduire le risque de masturbation, donc pour empêcher la masturbation. Donc voilà, quoi. Et du coup.
Donc c'est Monsieur Kellogg. Alors le docteur Kellogg, on le connaît parce qu'il voyait les cornflakes. Et du coup, le docteur Kellogg, lui, il prenait la circoncision sans anesthésie. Et vraiment, voilà. Alors, pour citer, un remède presque toujours efficace contre la masturbation chez les jeunes garçons est la circoncision. L'opération doit être faite par un chirurgien sans anesthésie, car la douleur de courte durée pendant cette opération a un effet salutaire sur l'esprit, surtout si elle est associée à l'idée de punition. Pour ce qui est des femelles, l'auteur a découvert que l'application de phénol pur sur le clitoris était un excellent moyen de maîtriser l'excitation anormale. Bref, alors, bon, j'ai pas la source exacte là dans ce qu'on a imprimé, mais en tout cas, c'est sûr que si, voilà, je crois à Calib, on peut au moins s'accorder pour dire que si des personnes elles ont envie de se masturber, qu'elles le fassent, c'est chouette.
Si elles ont envie de se faire circonscrire, qu'elles le fassent.
C'est chouette, c'est ça. Mais en tout cas, qu'à un moment donné, si c'est dans un but de, enfin voilà, se voir là comme le faisait le docteur Kellogg, la circoncision comme une façon de lutter contre la masturbation des jeunes garçons, c'est ou des plus vieux d'ailleurs peut-être, c'est un peu
violent. Ouais.
Mais alors du coup, moi, je veux bien quand même peut-être revenir là-dessus, parce que alors ça fait.
Pourquoi on pensait que ça réduirait la masturbation, oui. Tu penses?
Bah, est-ce que dans ce que ça change physiquement à un moment donné, ça fait que c'est plus compliqué de se masturber ou en fait on peut quand même se masturber quand on est circoncis?
Bah, moi je pense qu'on peut se masturber quand on est circoncis. Oui, non mais enfin voilà. Après ça change la. Je pense que ça change la masturbation parce qu'en fait quand on se masturbe, quand on est un garçon, quand on est une autre personne qui masturbe un garçon, et il y a un mouvement, on joue avec le bout de peau, avec le prépuce qui est un surplus de peau qu'on peut faire glisser sur le sexe en érection. Mais je pense qu'on peut très bien se masturber en étant circoncis. Mais en tout cas, ce que disent des gens. Ce que disent des gens, c'est que comme conséquence physique, ça peut avoir une perte de sensibilité. Parce que le prépuce, ça serait une zone innervée, donc avec plein de nerfs, et qui serait une source de plaisir. Et que par ailleurs, le fait que le gland il soit pas protégé par le prépuce lorsqu'il n'est pas en érection, ça ferait que la peau du prépuce elle se durcirait en fait, dans le terme technique ils disent kératiniser, la peau du gland se kératiniserait. Mais il y a d'autres personnes qui disent qu'on peut pas vraiment savoir si ça change la sensibilité. En fait, il faudrait pouvoir faire une étude sur des gars qui ont déjà une sexualité, qui se feraient circoncire et qui, avec les mêmes conditions de sexualité, on va dire, est-ce que ça changerait leur sensibilité. Mais je pense que c'est difficile de dire ça comme ça textuellement. Ça produit une perte de sensibilité et ça crée des problèmes dans la sexualité des garçons qui se font circoncire.
En tout cas, nous, dans ce qu'on a cherché, on n'a pas trouvé d'étude qui est rigoureuse en fait sur sur cette question-là jamais. Puis après, ça pose aussi la question de partir du principe que le plaisir qu'on peut ressentir en tant que garçon, il vient uniquement de du prépuce et du gland. C'est un peu, disons, réducteur par rapport à tout le corps qu'il y a autour et qui contient plein de nerfs et de zones excitables et érogènes et tout ça, quoi.
En tout cas, s'il y a peu de il peut y avoir des complications liées à l'opération et là, ça peut faire des conséquences physiques, ça peut arriver. En ce qui concerne les conséquences psychologiques, on va dire, moi, je crois pouvoir dire que s'il y a conséquences psychologiques, elle est plutôt liée au traumatisme de l'opération. Si c'est une opération qui se fait de façon violente et puis si c'est contre le gré de la personne, en fait, ou si après coup, la personne, elle considère que c'était une atteinte à sa personne, ce que je peux vraiment croire, être d'accord avec cette personne-là, quoi. Mais que sinon, la plupart des hommes circoncis considèrent leur état comme normal. Enfin, il y a pas, enfin, mais appelez-nous.
En tout cas, ils le vivent pas. Ils le vivent pas mal en tant que tel.
Je pense que les 30% d'hommes circoncis dans le monde ne sont pas complètement traumatisés de cette opération-là. Enfin, il me semble pas, en tout cas.
En tout cas, il m'est jamais arrivé à mes oreilles, mais effectivement, j'ai pas cherché ça de genre un mouvement d'hommes circoncis qui lutteraient contre la circoncision comme pratique.
Il y a des mouvements contre les mutilations génitales qui intègrent l'excision, la circoncision et tout ça. Il y a des gens qui, il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle, je pense que il est aux États-Unis aussi parce qu'il y a beaucoup de circoncisions qui sont pratiquées rapidement après la naissance pour des raisons d'hygiène. Et c'est un mouvement qui s'appelle les intactivistes. Mais j'ai pas eu le temps de chercher plus, mais je trouvais ça drôle comme mot. Gardons-nous intact, quoi. Voilà. Mais en tout cas, moi, je crois que, je pense que c'est la circoncision, ça peut être considéré comme une mutilation si c'est contre le gré de la personne. Enfin.
En tout cas, après, c'était là dans. Ce long mail de notre auditrice, elle avait envie à un moment donné de faire le lien entre circoncision et excision. Et alors elle disait aussi que c'était pas comparable en termes de violence, mais elle disait que autant l'excision que la circoncision, elle considérait ça comme un crime.
Alors, puisque tout à l'heure on a fait un petit point sur c'était quoi effectivement la circoncision, on peut rappeler aussi c'est quoi. C'est quoi l'excision? Donc, il y a plusieurs formes d'excision, en fait, qui vont de l'excision jusqu'à l'infibulation. Alors, l'excision la plus petite, on va dire, c'est juste, c'est déjà énorme, l'ablation d'une partie du clitoris. Vient ensuite l'ablation des petites lèvres. Puis peut arriver la suture des grandes lèvres pour ne laisser qu'un tout petit orifice pour laisser passer l'urine et le sang menstruel. Donc j'imagine que ça, quand c'est la totale comme ça, quand c'est tout recousu derrière, c'est ça qu'on appelle l'infibulation. Et vous imaginez l'infibulation, oui. Et vous imaginez les conséquences de ça. Enfin, outre les complications immédiates de ce type de pratique, d'infection, de trucs comme ça et tout ça, à long terme, en fait, il y a plus de sexualité possible. Parce que pour faire rentrer un pénis là-dedans, c'est hyper dur. Enfin, de toute façon, il n'y a plus de clitoris. Alors, une des grandes sources de plaisir chez la femme, elle est perdue. Enfin, pas forcément, parce que le clitoris.
Oui, précisément, il faudrait dire la partie externe du clitoris.
La partie externe du clitoris, parce qu'on vous l'a déjà dit plein de fois, le clitoris, c'est un organe qui est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait croire à première vue. Mais en tout cas, Vinclair, dans son article, par exemple, il compare, il dit que l'équivalent chez l'homme l'excision, ça serait couper le gland carrément et pas juste le prépuce. Donc, comparer l'excision à la circoncision, c'est quand même difficile, quoi. Enfin, moi, je pense que en termes de conséquences sur la vie de la personne, c'est sans commune mesure.
Oui.
Mais bon, pour autant, moi, je crois que ça peut être intéressant quand même de lutter contre des pratiques imposées aux individus.
Quelles qu'elles soient.
Donc, pour moi, ce qui peut me gêner, c'est de mettre sur le même plan l'excision et la circoncision. C'est pas de lutter contre ces pratiques-là si on considère qu'elles sont des mutilations.
Mais en tout cas, voilà, que on peut pas. À un moment donné, on peut éventuellement faire un lien dans cet aspect-là, mais que nous, on a pas envie de mettre ça sur du tout sur le même plan en termes de, je sais pas, de conséquences de gravité, on pourrait dire, ou un truc comme ça.
Mmh. Ouais. En tout cas, juste pour un dernier petit mot, pour vous dire que il existe aujourd'hui des trucs pour réparer réparer et la circoncision et l'excision. La circoncision, ça, il peut y avoir différentes opérations. Soit c'est une greffe de peau, soit on tire la peau de ce qui reste du prépuce pour puis petit à petit en fait ça va s'allonger et ça va recréer un prépuce. Enfin, il y a une autre méthode, je sais plus c'est laquelle. Enfin bref, il y a différentes méthodes qui prennent plus ou moins de temps. Pour l'excision, j'ai pas vraiment les détails, mais je sais qu'il y a maintenant il y a de la chirurgie qui permet de reconstituer un petit peu la vulve, et puis du coup d'essayer de retirer un peu le clitoris pour qu'il y ait un bout de clitoris qui ressorte dans la vulve. Après, je pense que, enfin, c'est vraiment chouette que ces opérations elles existent, et je crois qu'elles sont pratiquées en France. C'est un médecin français qui a bossé là-dessus, mais je pense que ça empêche pas tout ce qui s'est passé avant, quoi. Enfin, ça annule pas la souffrance que peut procurer l'excision.
Chez les femmes vraiment, oui, qui l'ont subi, quoi.
Voilà, bon, on a dit déjà beaucoup de choses. On va faire une pause, hein, pour boire un coup, tout ça. Puis pour vous délasser les oreilles.
J'arrive pas du tout à lire le morceau qui vient. Alors, si vous voulez nous appeler pendant qu'on le passe, hein, 04 76 09 09 09. Et Mélanie?
J'irai qu'à le lire, c'est Iretsukan, il me semble, et c'est Circling Boy.
C'est Maud qui a fait la section musicale de Calibre de ce soir, et donc c'est pour ça qu'on peut pas trop vous parler des morceaux, parce qu'on n'a pas tant eu le temps d'en discuter avant, en détail et tout. Voilà. Et puis qu'on a du mal à les relire, à les prononcer, bref, c'est un peu... Mais bon, il faut... Hein.
Mais on est toujours sur Calibre.
Et oui, sur Radio Calidoscope. Et partout ailleurs sur Internet. Hein.
Voilà, là on vient de parler de circoncision, puis on va continuer à parler
de Zizi
et de garçons, mais pas que, parce que ça concerne aussi les filles, et on avait envie de vous proposer une petite question de forum.
Oui.
Sur
question de forum. Sur sur.
On n'aurait pas qu'à dire pas quoi.
Oui, allez, vas-y.
Alors, c'est une dame qui nous écrit. Non, enfin, elle nous écrit pas à nous, elle écrit un forum. Mais bon, elle attend quand même des réponses. Les relations sexuelles avec mon mari durent de 2 à 5 minutes au maximum. J'en suis satisfaite. Mais mon mari pense qu'il est un éjaculateur précoce. Il aimerait que ça dure plus longtemps. Je voudrais savoir si nous sommes hors normes. Combien de temps dure la pénétration de vos rapports ?
Alors bon, elle demande aux gens du forum des réponses. En tout cas, moi, je ne vais pas pouvoir lui répondre parce que j'ai jamais mesuré, vous voyez. sur ce point-là. Après, donc, c'est le terme qu'elle emploie, c'est éjaculation précoce. Et plein de gens qu'on peut lire, qui réfléchissent à des trucs de sexualité, etc., ils proposent un autre terme que précoce. Qui est prématuré et entre autres qui est prématuré dans cette idée de mettre en avant le fait qu'elle est pas précoce au sens trop tôt, enfin, mais qu'elle est prématurée au sens où
prématuré par rapport aux attentes,
voilà,
du garçon,
c'est ça,
voilà, elle est trop tôt par rapport au... Enfin, c'est cette idée que, en fait, c'est plutôt une histoire de contrôle du garçon de son éjaculation que d'une durée normale d'une éjaculation.
Quand il y aurait, en tout cas...
Enfin, une durée... Pas de l'éjaculation, de la période...
Avant éjaculation.
Parce qu'une éjaculation de 10 minutes, vous voyez, quand même...
Voilà, je pense que ça serait douloureux à ce stade. Mais alors, oulala, faut que tu reprennes, Mélanie, puisque j'ai un truc qui est bloqué à ma gorge.
D'accord, bah pas de problème. Tiens, je te donne un coup d'eau. J'ai perdu Lunar, je suis toute seule au micro. Bon, alors, déjà, moi j'avais envie de rappeler que c'est un des premiers motifs de consultation en sexologie par les hommes. Et que même... Il y avait eu un rapport sur la sexualité masculine, un rapport HIT. On avait déjà parlé de HIT. C'est une chère S-H-E-R-E. Chère, sheer, je ne sais pas comment on dit en anglais.
Height, mais c'est
height.
C'est height.
Oui, c'est height. Donc, dans le rapport height de la sexualité masculine de 82, 70% des hommes interrogés éprouvaient des inquiétudes quant à leur capacité à faire prolonger le coït assez longtemps. Donc, bah, ce truc-là, en fait, ça concerne pas mal de garçons, apparemment.
Ben, en tout cas, je tiens à dire que ça concerne tous les garçons dans leur histoire sexuelle à partir du moment où ils ont des pratiques de pénétration quelque part. Parce que bon, c'est une représentation de la norme très forte, ce truc que donc il y a un rapport de pénétration et à un moment donné, l'image des films, c'est les deux partenaires doivent jouir en même temps quelque part. Donc si jamais à un moment donné, le garçon jouit avant son ou sa partenaire, et ben paf, c'est une éjaculation prématurée par rapport à ses attentes, quoi. En tout cas, c'est les attentes qu'on nous crée, c'est
par rapport aux attentes qu'on nous crée. Enfin, et du coup, nous on trouvait que c'était bien de vous dire que, enfin, on avait envie de décomplexer tous les garçons qui avaient l'impression d'éjaculer trop vite, puisque en fait on peut s'en foutre, en tout cas on a le droit d'avoir des orgasmes simultanés, on peut être un rapide, comme il y a des filles aussi qui sont des rapides, moi j'en connais, que du coup, c'est, en fait, il n'y a pas une question de norme,
Oui, en tout cas, il y a un truc autour dans quelle pratique on s'inscrit et on peut avoir envie d'être dans les pratiques de pénétration et pas forcément que ça veuille dire que les deux partenaires aient un orgasme. Et si jamais il y en a un qui est en avance sur l'autre, c'est possible de se relayer. Il y a plein d'autres choses que les rapports de pénétration en tant que tel, ou en tout cas on peut imaginer de prendre le relais avec je sais pas, des doigts, des vibros, si jamais on a envie de rester dans les pratiques de pénétration, même si le garçon à un moment donné il a éjaculé et qu'il a le zizi tout flaccide, on peut encore imaginer plein d'autres trucs pour continuer à se à se titiller.
Du voilà. coup, enfin déjà, ce qu'on pourrait répondre à cette femme, c'est que il y a pas de il y a pas de hors norme ou de norme. Enfin que si elle elle est satisfaite, c'est déjà une bonne chose. Après, je sais pas dans en quoi elle est satisfaite et enfin peut-être faudrait creuser avec elle, mais bon, on l'a pas au téléphone, donc c'est difficile. Après, lui, apparemment. Il aimerait que ça dure plus longtemps. Donc là, effectivement, on peut dire que c'est indépendamment d'une norme qu'on n'a pas envie de faire exister. Là, c'est plus ben, comment gérer cette souffrance-là. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une souffrance, mais en tout cas, cette insatisfaction, en tout cas. Et les gens peuvent essayer de réfléchir à quelles peuvent être les causes du manque de contrôle éjaculatoire des garçons, enfin en tout cas de celui-ci. Bah, je sais pas, t'as des idées toi de Lunard, qu'est-ce que ça pourrait être
Il y en a plein. Hein. Il y a un truc, je crois, enfin il y a cette question de la confiance en soi. J'ai l'impression qu'il y a un truc important. C'est-à-dire à un moment donné, si jamais c'est vécu comme quelque chose de l'ordre du contrôle, et ben ça met une certaine pression et qui fait que du coup c'est stressant et du coup qui fait qu'on à un moment donné comment je peux décrire ça, que en tout cas, mais alors après moi comment je le vis, hein, ça peut être un truc de s'éloigner des perceptions de plaisir en général et de son corps sur le moment, et que ben alors à un moment donné c'est au final d'être moins oh là là, l'esprit dans son plaisir, et ben ça peut faire que pour le coup on est
ça nous échappe,
ouais, en tout cas ça échappe quelque chose comme ça.
Moi je crois qu'une autre grosse raison, c'est que ça peut être aussi la méconnaissance de son corps et du fonctionnement de l'orgasme, de l'éjaculation et tout ça. Et enfin, du coup, c'est vrai que ce genre de choses, ça arrive souvent en début de. Enfin, je pense que c'est assez fréquent cette insatisfaction-là chez les jeunes garçons, en fait.
Oui,
en tout cas, au moment de la découverte de la sexualité. Mmh. Et c'est normal. Enfin, quand t'as un apprentissage en cours, tu sais pas trop comment tout gérer, quoi.
Bon, alors après, assez. Comment dire, ironiquement, non, c'était pas le mot que je cherchais. En tout cas, de façon un peu contradictoire, j'ai l'impression que pour plein de femmes, l'apprentissage, ça va être de comprendre comment leur corps fonctionne pour arriver jusqu'à l'orgasme. Pour beaucoup de garçons, ça va être plutôt quelque chose de l'ordre de apprendre à mieux comprendre leur corps pour en tout cas éjaculer moins vite, mais bon, parce qu'il y a un lien éjaculation orgasme, alors on en a déjà parlé dans une autre émission.
Ah oui, c'est vrai, c'est drôle ça, j'avais jamais pensé.
Ouais.
Que du coup effectivement l'orgasme est plus spontané chez les garçons, et que du moment où ils veulent le maîtriser, il faut qu'ils apprennent plus à comprendre leur fonctionnement, et à l'inverse les filles pourraient avoir besoin de plus de temps de découverte, enfin que c'est moins spontané, et que enfin en tout cas c'est peut-être pas toujours comme ça, hein, mais que ça peut être un peu des constantes. C'est vrai, ouais. c'est intéressant comme la façon d'envisager les choses.
Mais bon, après sur des raisons, bon, moi j'ai l'impression que les questions de communication aussi, c'est hyper important. C'est à un moment donné de quelles, enfin, parce que c'est aussi des attentes que des garçons peuvent se mettre vis-à-vis d'eux-mêmes, et quelque part, alors qu'à des moments, elles sont pas nécessairement partagées, et juste elles sont, on s'explique pas, quoi.
Oui. Ah. Après, moi, je pense que les attentes que se font les garçons, c'est aussi parce que, enfin, il y a une pression à la performance sexuelle, et qu'il y a tout un discours sur la durée du coït et, enfin, que devrait avoir un coït, etc. Et que du coup, ben ça, enfin, ça peut être un peu aussi contre-productif. En fait, plus on le dit, faut que tu dures longtemps, et moins toi tu te sens en mesure de le faire, quoi. Enfin.
Et puis c'est plus qu'un discours. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup d'images, et notamment voilà, du porno où on voit des on voit des types. Comment elle disait ça, Emma? Elle disait le marteau piqueur, c'est ça? Pendant des plombes, et à un moment donné. et voilà, et en tout cas comme si c'était nécessaire. Et comme si ça pouvait être agréable aussi. Enfin, j'ai l'impression que, en tout cas, beaucoup de témoignages de femmes aussi, on en trouve sur des forums Ou par ailleurs, on peut en entendre de qui disent que c'est trop long, en fait, que leurs rapports de pénétration, ils sont trop longs, qu'elles en ont marre, que le type, il, je sais pas, et après, ça peut commencer à être, enfin, du coup, douloureux et pour le coup, plus du tout agréable, quoi.
Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a, un très bon article sur un blog qui s'appelle Zone Zéro Gêne. En un seul mot, mais c'est bien zéro gêne, sans gêne, quoi. Lunard, peut-être il nous en parlera à la fin de l'émission pour raconter un peu c'est quoi ce blog. En tout cas, il y a un article là-dessus sur l'éjaculation précoce, enfin, ou en tout cas ce qu'on met derrière ça, et qui dit en fait que l'éjaculation prématurée, c'est un problème dans la mesure où dans le milieu culturel dans lequel vit l'individu, en fait, cette société-là, elle valorise un coït qui dure longtemps. Et du coup, l'auteur de cet article se pose la question de pourquoi on est dans une société qui valorise le coït qui dure longtemps. Et en fait, elle dit que en fait, c'est parce que pendant longtemps, on a pensé que le plaisir de la femme passait par la pénétration et que du coup, fallait durer longtemps pour atteindre le plaisir de la femme, alors que on sait aussi par ailleurs qu'un des organes de plaisir chez la femme c'est aussi le clitoris, que il y a des femmes qui ont du plaisir avec la pénétration et il y a des femmes qui ont pas de plaisir avec la pénétration. Enfin, du coup, peut-être que ça va changer un peu aussi ce truc de que si on arrive à avoir une autre représentation de la sexualité, peut-être plus proche du vécu des individus, Les garçons, ils arrêteront de se prendre la tête avec cette histoire d'éjaculation précoce, quoi.
Bah oui, mais en tout cas, c'est c'est bien parce que la femme avec un grand L et l'homme avec un grand L n'existent pas. Que j'ai envie de dire, c'est ça. C'est encore une fois, c'est aussi en communiquant et en se racontant nos envies et nos plaisirs que on peut sortir de ces clichés-là. Pour justement entrer dans comprendre les attentes des partenaires avec qui on fait du sexe, quoi. C'est quelque chose comme ça.
Et si la communication suffit pas, parce que des fois on a beau bien communiquer et être bienveillant l'un envers l'autre, des fois en fait on reste insatisfait de ce qu'on vit et tout ça, et du coup il existe un peu des différents trucs qui peuvent un peu aider. Et il y a un site qui raconte un peu toutes ces méthodes diverses et variées, qui s'appelle emoi.free.fr, et qui du coup parle de techniques pratiques qui sont pour moi dans l'ensemble plutôt des techniques qui permettent de mieux connaître son corps, enfin le fonctionnement de son corps, en tout cas au niveau sexuel, qui passe par la masturbation, la musculation du périnée, des méthodes qui s'appellent des stop and go, vous voyez, un truc où en fait on se masturbe ou on a un coït ou bref, et avant l'éjaculation on s'arrête pour essayer un peu de maîtriser ce moment-là. Enfin bref, il y a plein de méthodes avec un programme en trois phases sur 6 mois où on se met sur 3 fois par semaine. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi
ces trucs là par exemple le stop and go là, ça n'a jamais marché pour moi. Je veux dire, juste à un moment donné ça me monte, je m'arrête, puis en fait si jamais mon avant que mon plaisir descende par exemple, ça met vachement de temps. Alors bon, si ça marche pas pour d'autres garçons, je peux comprendre. Par contre, un truc que dans mes pratiques je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des positions où je vais éjaculer, je sais pas trop pourquoi, beaucoup plus vite que d'autres, quoi. Et du coup, il y a des positions que des partenaires me demandent, et moi je les préviens, je leur dis si on se met comme ça, je risque de jouir vite. Des fois non, mais souvent oui. Alors alors peut-être on peut se mettre autrement, ou peut-être si on fera autre chose après, une fois que j'aurai joui, enfin des choses comme ça.
Et en tout cas, je crois que il s'agit pas ici de conseiller des positions, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que il peut y avoir des résultats paradoxaux, en fait, ça dépend des garçons, en fait, de ce qui les excite plus ou pas. Du coup, si vous avez envie d'essayer différentes positions, enfin, en tout cas, d'essayer de solutionner cette insatisfaction ou ce manque de contrôle éjaculatoire ou je sais pas quoi, par des différentes positions, en tout cas, peut-être c'est pas celle que Lunar et lui.
Oui, c'est
voilà, faut essayer vous quoi, et puis peut-être voir c'est lesquelles qui vous font éjaculer plus vite.
Bah oui.
Bon, et sinon il y a un truc qui apparemment fonctionne pas mal, c'est le préservatif qui ralentirait la durée de l'éjaculation. En tout cas, chez certains garçons, ça marche, quoi.
Et juste de mettre un préservatif ou des types de préservatifs particuliers.
Il y a des types de préservatifs particuliers, mmh. Mais déjà, le fait même de mettre un préservatif chez certains garçons, ça ralentit le bidule. Enfin, pas l'éjaculation, c'est la durée, je sais pas comment dire.
Mais après, parce que moi, j'ai lu des témoignages qui disaient justement le contraire, de garçons qui avaient ce truc de pas vouloir mettre de capote parce qu'ils jouissaient plus vite avec des capotes.
Ah ouais, ouais. C'est drôle, ça, j'avais jamais entendu.
Ouais.
Bon, bah, alors du coup, bah, c'est pareil, faut tout essayer. Puis vous...
Mais après, ces espèces de, les capotes spéciales, il y en a parce que elles sont plus épaisses, mais il y en a aussi qui ont des trucs de gel.
De gel anesthésiant, ouais. Mais ça, il y a aussi des gels tout court anesthésiants. Ouais. Mais alors, bon, ça, c'est un peu le désavantage de si tu mets juste le gel anesthésiant, de pouvoir anesthésier le vagin de ta partenaire ou le rectum de ton partenaire ou de ta partenaire. Donc c'est pas le top, quoi. Enfin,
à un moment donné, si jamais on a ce genre de pratique, c'est plutôt pour se donner du plaisir. Alors c'est un peu lié aux sensations. Si jamais on est anesthésié, on ressent plus rien, quand même moins.
Oui, ça. Oui, mais après, moi, je crois que ça peut. Ça peut correspondre à des gens. Enfin, je veux dire, qui préfèrent avoir un plaisir plus longtemps, mais plus modéré, plutôt qu'une, enfin, un grand plaisir d'un coup comme ça. Enfin, peut-être que toi, ça te parle pas, Lunar, mais moi, je pense que chercher.
Moi, j'ai jamais utilisé ces trucs-là. Alors, du coup, c'était. Mais du coup, ça anesthésie pas nécessairement complètement, quoi. On peut quand même.
Bah non. Sinon, je pense que ton zizi redevient flaccide assez rapidement.
Bah après, moi, je me méfie quand même de ces trucs des fois, parce que, par exemple, ces trucs anesthésie là, ils peuvent aussi être. Dangereux dans le sens qu'on ressent pas des choses de l'ordre de la douleur, par exemple, en cas de, je sais pas, de pas assez de lubrifiant ou de choses comme ça. Et enfin, du coup, je pense qu'il faut par exemple sur le lubrifiant faire vraiment gaffe si jamais on a recours à du genre de gel, parce que bon, si
c'est vrai,
enfin voilà, c'est un peut-être, mais après, si toi t'avais lu un témoignage que de d'un garçon qui disait que c'est ça qui lui avait permis
du tout les gels. En fait, c'était un peu le dernier truc qu'on sort du chapeau là, c'est les médicaments. Alors je sais plus c'est lesquels, mais apparemment il y aurait des médicaments qui retarderaient aussi l'éjaculation. Alors ça, c'est prescrit par des sexologues apparemment, mais voilà, c'est, je pense que moi je pense que c'est quand même bien d'en parler, parce que ça peut correspondre. Il y a des gars il y avait un témoignage sur ce site là, emoi.free.fr. donc emoi.free.fr, c'est en fait le site d'une personne, enfin d'un garçon qui était éjaculateur précoce, là je mets des guillemets, et qui a décidé de prendre son problème, son insatisfaction en main, et qui du coup a fait ce site avec toutes les recherches qu'il a faites, et qui est plutôt partisan, enfin je pense que c'est ça qui lui a réussi, des techniques physiques dont on parlait tout à l'heure, de la masturbation, des trucs en stop and go et tout ça, mais il mettait quand même sur son site le témoignage d'une personne qui lui disait: moi, ces trucs là ça n'a pas du tout marché, la seule chose qui a marché, c'est d'aller voir un sexologue, d'en discuter avec lui et de prendre des médicaments pendant un temps, et voilà. Du coup, bon, moi je pense que ça peut dépendre de qui on est, puis moi ces méthodes techniques là, elles sont assez fastidieuses, je pense. Donc ça dépend quel temps on... Enfin, je sais pas comment dire.
Puis je peux imaginer qu'elle marche pas. Et à un moment, vu que c'est aussi, c'est des trucs de rapport à son corps et de confiance en soi, je pense. À un moment donné, d'avoir recours à des trucs, à des molécules, des labos pharmaceutiques. Si jamais ça permet de dépasser un cap dans ce truc de, ah, tiens, je l'ai pris et hop, là, ça, ah bah oui, je peux aussi durer, plus que 10 secondes, et ben que les fois d'après ça puisse se passer mieux, parce que on s'en sent on sait que c'est possible, quoi. Alors après, toute la difficulté étant de se dire que c'est possible sans nécessairement avoir recours à ce genre de médoc, mais je peux imaginer en tout cas que ça permette de passer un cap, quoi.
Voilà, bon, en tout cas, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait plusieurs qu'il y ait plusieurs pistes, on va dire. Enfin, je sais pas, ouais. Mais du coup, moi, j'aimerais bien vous donner la référence de cet article de zone zérogène. Donc, c'est un article qui date du 25 août 2010. Il est assez récent. Et il s'appelle « Éjaculation rapide et bienveillance assassine ». Je vous laisse découvrir sur Internet ce que cache bienveillance assassine comme... Enfin voilà, l'auteur parle du rôle du partenaire dans ce truc de la maîtrise de l'éjaculation.
Oui. Voilà. Et puis les références, hein, si on les mettra sur le site de l'émission à côté de l'enregistrement de ce soir, comme ça, si vous avez la flemme de les noter, vous pourrez regarder tout ça demain ou après-demain en ligne. Allez, un dernier morceau avant une petite conclusion.
Oui, alors c'est Electrocute, I Need a Freak. Sur Calimre, C'est bientôt la fin.
Oui, je voulais dédier quand même le morceau qui vient de passer à tous les freaks de la Terre. Et de freaks, tous les gens, les bêtes de foire, les gens hors normes. Voilà, c'est un petit cadeau pour vous. Pour nous, peut-être. Quoi dire. On peut-être conclure cette émission. On a parlé de trucs de garçon.
Alors c'était pas une émission thématique, mais en fait ça l'était quand même un peu.
Mais on n'avait pas trop choisi. Hein. Ça s'est un peu présenté comme ça, qu'on avait envie de parler de tout ça. Alors tant qu'à faire. Hein,
pour finir, on va continuer sur le sujet.
Et donc sur Zone Zérogène, alors c'est la personne qui est derrière ce site, Marie-Gaëlle Zimmerman. Elle a fait un article il n'y a pas longtemps avec des conseils de lecture et donc elle conseillait un blog qui s'appelle Que du bonheur. Alors que comme la bite quoi, comme la queue. Et ce blog c'est écrit par un mec, je sais pas, je pense qu'il doit avoir la trentaine, un truc comme ça. Et il raconte sa sexualité de garçon. Et moi je trouve ça déjà pas mal parce que quand même c'est assez rare finalement que des garçons ils soient dans ce truc de se dévoiler et d'essayer de parler de leur sexualité, de leur plaisir et pour le coup pas du tout dans un truc spécialement j'en sais rien.
De performance.
Ouais, pour le coup, ou d'impressionner. Ou en tout cas, il assume des trucs pas forcément hyper glorieux et tout ça. Et donc, je voulais vous lire un petit extrait d'un billet qui s'appelle la première montée de sève, où du coup, il a 14 ans et il raconte sa première éjaculation. Et alors, pour le coup, elle était pas prématurée, elle était juste complètement inattendue. Alors je me lance.
Bah oui, vas-y. Ouais.
Ce matin-là, j'ai pas cours avant 10h. Je suis seule à traîner en pyjama au lit. Ma mère est déjà partie après m'avoir laissé une grosse trace de rouge à lèvres sur le front, dans un bisou fait exprès pour me faire chier. Je traîne, et puis au moment de me lever, je commence à bander. Vite, il me faut ma bouée de secours. Je ne compte pas m'endormir parce que je suis pas fatiguée, mais le traversin doit faire retomber le truc. Là. Et c'est parti pour le frotti-frotta. Ça commence tranquillou et tout se présente bien, mais là, il se passe un truc énorme. À mon échelle, c'est un tremblement de terre et je sais pas de quoi je parle à l'époque, mais j'en avais déjà vécu un. Non, et je sais déjà de quoi je pardon, et je sais de quoi je parle, à l'époque j'en avais déjà vécu un. Stupeur, tremblement, je vibre tout entier, pris d'un spasme qui gronde, un truc sourd qui monte et m'agite. Mais merde, c'est quoi ça? C'est pas fini. Là, il y a un autre truc qui prend le relais et c'est carrément pas de la même nature. Un vertige, un vrai vertige qui vient de l'intérieur du corps. Un vortex au niveau des entrailles, une sensation de chute. Comme la fois où on m'a blindé de médicaments. Comme la fois où j'ai sifflé un grand verre à moutarde de vodka sans faire exprès. Si, je vous jure, j'avais 9 piges, j'ai vraiment pas fait exprès. Puis vient un trait de feu au périnée. Je savais pas ce que c'était non plus à l'époque. Une chaleur très forte le long du pénis tendu et une sorte de nausée à l'estomac qui fait du yo-yo. Comme quand l'avion passe dans un trou d'air. C'est toujours pas fini. Là, il y a comme un truc qui claque, vlan. Un liquide est sorti. Du dedans de moi, je veux dire. Et j'ai senti comme un feu d'artifice avec explosion kaléidoscopique dans la tête et tout. Sur mon slip, une petite tache s'est formée. Je soulève l'élastoc. Non, tout va bien, je saigne pas de la queue. Je touche ce liquide, c'est un peu visqueux. Il n'y en a pas beaucoup, quelques gouttes grand max. Ça sent bizarre, ça goûte salé. Je viens de comprendre. Je suis envahi d'une sensation de bien-être incroyable, comme si je vivais dans du coton hydrophile. En plus, il fait bon. Je sens un truc hyper agréable qui coule dans mes veines, comme la fois où on m'a filé des antalgiques en intraveineuse à l'hosto. J'ai la peau qui palpite. Quand je me caresse un bras, c'est doux et très agréable. J'essaie une cuisse, un sein. Oh putain, waouh ! Mon ami, quel festival ! Je me sens mou, j'ai le sourire qui remonte au coin des lèvres comme un store automatique. Yeah, le pied. Tout ça n'a duré que quelques secondes, mais ce premier orgasme, je l'ai vécu comme des heures entières de sensations nouvelles. Voilà.
Voilà, c'était joli, hein. voilà. Moi, je me laisse sans voix.
Générique.
Ouais.
Alors, Noémie, à la table.
Maud, au téléphone, qui n'a pas sonné, malheureusement.
Et à la sélection musicale, non, il faut.
Et à la sélection musicale.
Mélanie au micro.
Et Lunard aussi au micro.
Et ainsi s'achève l'émission de Calibre du 23 septembre 2010.
Voilà.
On vous retrouve la semaine prochaine.
De 20h à 21h sur Radio Kaléidoscope ou sur Internet.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.